Radio Okapi. Écho des développements.
Bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable qui s'intéresse aujourd'hui au projet de reboisement dans la province du Kwango. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou. Diedonné Nyangasa s'occupe de la prise de son, Jean-Marc Matouaki se coordonne et supervise ces numéros. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce magazine.
Écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. En RDC, Col Right Group, une chaîne de supermarchés de droit belge, a lancé le projet de reboisement de 12 millions d'arbres sur 10 000 hectares dans deux chefferies de la province du Kwango. Qu'est-ce qui a motivé cette firme à lancer ce projet dans cette partie du pays? Quel sera l'impact socio-économique de ces programmes de reboisement? Et qu'est-ce qui est fait sur terrain pour avoir l'adhésion des communautés locales? Vous aurez certainement deux éléments de réponse à toutes ces questions au cours de ces numéros des Codes du Développement. Nous ouvrons ces magazines avec ces témoignages de Constance Mafuta, promotrice de la Fondation Passe à André pour l'environnement basée à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Selon cette dame, la cinquantaine révolue, ce vaste projet va à la longue assurer la sécurité alimentaire qui guette cette contrée. Nous allons l'écouter.
Je suis très très comblée parce que dans le cadre de mon ASBEL, j'ai eu à travailler avec l'équipe de notre ASBEL à Kenge d'abord, à l'an 2017. Nous avons sensibilisé les femmes, cinq chefs traditionnels des femmes sur l'importance de l'arbre. Et à l'issue de cette sensibilisation, conscientisation, les chefs traditionnels qui étaient présents avait émis le vœu de voir que d'autres chefs traditionnels comme eux soient aussi sensibilisés. Et au retour, à Kinshasa, nous avons encore eu un financement avec grâce à GGF, une ONG de droit américain, qui nous a encore financé pour la deuxième fois. Et nous sommes allés dans un village qu'on appelle Kitinga, qui est dans la chefferie du grand chef Pelin de Kobo. Et nous avons eu à réunir 20 chefs traditionnels qui ont aussi souhaité qu'ils aient aussi des arbres à chenilles, comme Kenge, le Kwango. C'est une province qui aujourd'hui est confrontée à des problèmes. Oui, à des problèmes des aliments. Et c'était dans ce cadre-là. Aujourd'hui, avec le lancement de ce projet, vraiment, je suis comblée. Donc, c'est une preuve que nous n'avons pas travaillé en vain. Et voilà, comme nous avons déjà commencé et que dans la suite des temps, il y a maintenant plutôt un grand projet que nous venons de lancer. C'est vraiment une joie pour moi et la Fondation Passe André pour l'environnement.
L'équipe des Codes du Développement remercie Madame Constance, promotrice de la Fondation Passe André pour l'environnement basée à Kenge. Selon nos sources, le reboisement est une opération qui consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été supprimées par coupe ou détruites par différentes causes dans le passé. Pour le cas de la province du Kwango, la forte demande en bois de chauffe et en charbon de bois de la ville-province de Kinshasa est l'une des raisons du déboisement massif des forêts dans cette province. Quelles sont les raisons qui ont poussé Col Right Group à initier ce vaste programme de reboisement dans le Kwango? Jeff Teiss, son directeur général, répond.
Et notre attention s'est portée sur votre magnifique pays. la République démocratique du Congo. Le bassin du Congo offre la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Un véritable poumon vert, pourtant menacé et qui nécessite des multiples actions en termes de protection, de régénération et de plantation. Mais la RDC ne baisse pas les bras. Le pays a pour ambition de planter pas moins de 1 million d'arbres. Nous avons trouvé dans la province du Kwango, qui est sous le grand leadership du gouverneur Petit Petit, et qui, je tiens à saluer ici, le grand chef coutumier de Pelende Nord, qui était prêt de travailler avec nous. Si la reforestation reste le point d'ancrage du projet, 12 millions d'arbres que nous lançons aujourd'hui, cela va bien au-delà. Car les premiers partenaires du projet resteront sans conteste les communautés locales. Des accords ont été ainsi conclus pour la mise en place de programmes de formation et de gestion forestière. Et en agriculture ainsi que pour la création d'une pépinière. À plus long terme, le projet engendrera des opportunités d'agroforesterie pour les communautés locales, qui seront durables, avec des modèles sédentarisés et respectueux de la forêt. En fait, pour que ces modèles sédentarisés soient pérennes, Colored Group contribuera aux infrastructures à vocation sociale, en parfaite concertation avec ces communautés. La construction d'un pont, d'école, d'un centre de santé, mais aussi le développement des énergies renouvelables grâce aux panneaux solaires. Un tel projet demande du temps dans sa mise en œuvre. Et Colored Group est conscient qu'il ne peut pas le réaliser seul. Smart Technics, une start-up spécialisée dans la gestion de projets innovants au sein Colored Group, sera responsable de la coordination et l'organisation. Elle sera représentée par une permanence sur le site à Swakasongo et Swakaumba. À côté des communautés locales, nous avons pris soin de bien nous entourer afin de mettre en place les étapes nécessaires de façon réfléchie et de faire en sorte que ce projet soit un succès pour toutes les parties prenantes. Nous serons conseillés par deux ONG locales, Kadim et Fajalobi, d'ores et déjà actives dans la reforestation. Et je m'en voudrais ici de ne pas remercier chaleureusement M. Alain Huard, qui nous a guidés et conseillés dans nos démarches. Avec ce projet, nous pourrons ensemble avoir un impact considérable sur les plans écologiques, économiques et sociaux. Nous pourrons faire une différence réelle et substantielle à long terme, à la fois pour la société et la planète.
Ce programme de reboisement de 12 millions d'arbres sur 10 000 hectares est une opportunité que la province du Kwango ne peut pas louper, soutient le gouverneur des provinces Jean-Marie Mpetimpeti.
C'est une opportunité que la province du Kwango ne peut pas louper. C'est la contribution, si vous voulez bien, de la province du Kwango. Dans un premier temps, j'ai donné 4 000 hectares pour le reboisement. C'est une destruction massive de la forêt chez moi, essentiellement pour le commerce de la presse. Et je pense que ça a des conséquences. Et un tel projet, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est ce qui justifie ma présence personnellement ici, pour pouvoir contribuer et essayer aussi de remercier la société Colright. Demain, je pense que j'aurai un entretien avec Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et l'ensemble des dirigeants de cette société pour aller plus loin et aussi au-delà. Je pense que ce sont de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Effectivement, je pense qu'il y a une campagne qui a été menée de sensibilisation pour faire comprendre à la population. Le déboisement, c'est tout un problème. Ils vivent que de ça. Brûler la forêt pour entasser de la braise. J'ai lancé au moins 4 ou 5 équipes pour sensibiliser toute cette population et de leur faire comprendre le problème climatique qu'il y a dans un premier temps. Et ensuite, l'arrivée de cette société, de plusieurs sociétés, dont parmi ces sociétés, la société Colwright, le projet Colwright, pardon, qui est là. Et qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier? Parce que moi, le cahier des charges est sur mon bureau. Il y aura des écoles qui seront construites. Il y aura des ponts qui seront construits. 4000 hectares. J'ai signé le contrat d'amphithéose pendant 25 ans. 25 ans. C'est-à-dire que les 4000 hectares ne seront pas touchés. Et vous imaginez, au bout de 20 ans, nous aurons la forêt. Tout cet espace qui a été déboisé va être reboisé. Et j'ai pris d'autres mesures, d'ailleurs, plus loin. J'interdis l'abattage des arbres. C'est l'abattage des arbres, les arbres spécifiques qui nous fournissent des chenilles. Parce qu'ils en font du commerce, cette population. Ils font la cueillette des chenilles. Alors, je pense qu'en passant par là, quelque part, c'est pour préserver cette forêt. Je leur ai expliqué qu'en abattant les arbres, vous n'aurez plus de chenilles. Autant ne pas abattre les arbres et avoir la récolte ou la cueillette des chenilles. C'est aussi une façon de préserver cette forêt, une façon de participer à ce déséquilibre climatique. Vous connaissez bien le système, le gaz à effet de serre qui perturbe la planète, le réchauffement climatique, et l'humanité ne peut pas rester les bras croisés. La seule solution, l'une des solutions, c'est encourager le crédit carbone, reboiser pour que ces plantes puissent nous donner de l'oxygène. Imaginez que s'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus personne.
Ce projet de reboisement est aussi soutenu par le ministère des tutelles, d'après Sylvise Beau, conseillère en charge des forêts et tourbières d'Ève Bazaïba Massoudi, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable.
Nous accompagnons ce projet, nous l'accueillons à bras ouverts, parce que ça entre exactement en ligne de compte de notre politique qui est lancée depuis l'investiture de Mme Bazaïba à la tête du ministère. Et le reboisement fait partie d'une des problématiques pour la crise climatique. Mais au-delà de ça, ce genre de projet qui encadre, qui permet aux communautés locales de tirer bénéfice et profit de leur forêt, plutôt que de la détruire, mais plutôt aller dans la conservation et en tirer un bénéfice pour pouvoir permettre à ces différentes familles de vivre décemment, est un projet qu'il faut accompagner. Et nous accompagnons ce projet avec les moyens qui vont permettre que ce projet puisse aller au bout de son assignation.
Et quel est le message que le ministère lance à la population bénéficiaire de ces projets?
Il faut savoir aussi qu'au-delà de ce projet, il y a aussi des concessions forestières qui sont allouées aux communautés locales. Ces concessions forestières seront aussi reprises dans ce projet et vont permettre à ces locaux de pouvoir faire des partenariats gagnant-gagnant avec ce genre d'entrepreneurs. C'est déjà le projet, c'est un projet pilote, il va démarrer et nous sommes confiants dans l'aboutissement du projet. Mais au-delà de ça, le gouvernement de la République, au travers du ministère de l'Environnement, veut impérativement permettre aux communautés locales, qui sont en fait les premiers bénéficiaires de la forêt, qui vivent dans ces forêts, qui ont leurs traditions, leurs coutumes, leurs us et traditions, bien évidemment, pouvoir tirer le maximum de cela. Le message, il est simple. Permettre à ces communautés de ne plus vivre dans la précarité. Ça n'a pas de sens d'avoir la plus grande forêt du monde et aujourd'hui pays solution et avoir les locaux premiers bénéficiaires dans la précarité. D'où ce genre de partenariat est accueilli à bras ouverts et nous encourageons bien évidemment ce genre d'initiative.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Vous êtes en train de suivre Éco du développement sur Radio Capi, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables qui s'intéresse aujourd'hui au programme de reboisement lancé par Colruyt Group, une chaîne de supermarchés des droits belges qui vient de lancer le projet de reboisement dans la province du Kwango. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État d'après André Ouameso, son directeur des cabinets adjoints en charge des questions économiques et financières. Il a par la même occasion encourager les autres firmes à ne pas hésiter d'investir dans les autres secteurs de la vie en RDC, qui est une terre d'opportunités.
Merci de nous accueillir dans votre résidence à l'occasion du lancement de ce projet ô combien important qui s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État qui, il y a un peu plus d'un an, a lancé le projet 1 milliard d'arbres. Cher Monsieur Theis, ainsi que toute la délégation du groupe Colruyt, je vous souhaite la bienvenue au Congo au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le gouverneur du Kwango, je voudrais aussi saluer votre implication dans ce projet salvateur parce que, comme viennent de le dire mes prédécesseurs sur ce plateau, ce n'est pas seulement un projet écologique, c'est aussi un projet sociétal qui va améliorer les conditions de vie de nos populations. Je salue la présence remarquée du chef coutumier de ces territoires, qui marque par sa présence, ainsi que du représentant des chefs coutumiers, l'adhésion de nos populations à ce type de projet. Parce qu'effectivement, il faut marquer un tournant dans la manière de faire les choses en République démocratique du Congo pour que les investissements de nature économique, écologique ou autre se fassent en collaboration étroite avec les populations locales qui sont les dépositaires ancestraux de notre terre. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, merci de rehausser de votre présence cette manifestation qui, je crois, marque non seulement une présence accentuée d'un groupe aussi important que le groupe Colruyt, qui est le premier distributeur de produits non seulement alimentaires, mais de chaînes de magasins en Belgique. J'ai eu des discussions avec vos représentants par le passé, en déplorant le fait qu'effectivement, il y a les produits Everyday et Boni que vous avez cités, qui sont des produits qui sont très appréciés par notre population. Mais je déplorais le fait que ça se limitait uniquement à de l'import-export, sans véritablement créer une valeur ajoutée ici en République démocratique du Congo. Mais j'ai bon espoir que, avec ce projet, le groupe Colruyt regardera désormais le Congo différemment et pourra se dire que en RDC, il est possible de déployer des investissements qui sont créateurs de valeur ajoutée sur place pour véritablement un partenariat gagnant-gagnant, aussi bien pour le Congo et les Congolais que pour tous les investisseurs qui veulent bien venir dans notre pays, y trouver un potentiel de croissance et de richesse. Je finirai mon propos par inviter toutes les personnes et toutes les entreprises qui ont déjà accepté de s'installer au Congo, d'être véritablement nos ambassadeurs dans vos pays respectifs. C'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir investir au Congo, étant donné les pesanteurs que nous connaissons tous, et le président de la République est le premier à y travailler pour améliorer le climat des affaires. Mais c'est vrai que le Congo est un pays d'opportunité, est un pays d'avenir, et est un pays qui a toutes les réponses à la transition énergétique qui est inévitable pour la planète.
Donnons cette fois-ci la parole à l'autorité coutumière Mwaku Kambamba, qui s'est dit très content de ce projet qui est en cours d'exécution dans sa chefferie.
Je suis très satisfait puisque c'est un projet que j'ai accompagné du début. Toute la prospection de toutes les terres qu'ils ont prises là, c'est moi qui était là. Et c'est dans ma chefferie. C'est dans deux des 25 groupements de ma chefferie que ça existe. Ce sont deux noms qui étaient cités dans tous les discours, soit Kasong et soit Kaoum, qui appartiennent bel et bien à ma chefferie. Je les ai accompagnés du début jusqu'à la fin. Je suis très heureux de cet aboutissement aujourd'hui, de ce lancement officiel.
Est-ce que la population de votre chefferie est consciente de ces projets et comment pense-t-elle participer pour sa réussite?
Elle est consciente. Le processus a commencé, je vous dirai, au mois de mars. Du mois de mars jusqu'au mois d'août, où les protocoles d'accord ont été signés, nous avons eu à faire des visites et des visites. Je ne pense pas que c'est moins de 10 ou 15 visites à travers tout le terrain où le projet va s'installer. Donc nous avons eu à sensibiliser, mais c'est un travail de longue haleine que nous allons continuer à faire. Je crois que le projet a aussi tenu compte de cette sensibilisation-là. Et on va continuer, et on ne va pas baisser les bras.
Comment va-t-elle participer?
La population? Mais d'abord, c'est la population locale qui y travaille. Déjà, les activités qui sont là sont réalisées par la population locale. Et puis par le fait qu'ils ont accepté de céder les terres. Ils ont participé. Oui. Moi-même, je suis ici en tant que cédant. C'est comme ça que je suis là et pour représenter ces communautés locales. Oui, c'est ça qui ferait l'objet même de toutes les sensibilisations que nous aurons. Mais le feu de brousse, c'est un serpent à mille têtes. Hein. Les feux de brousse ne sont pas... C'est pas la population locale par moment, toujours qui est à la base des feux de brousse. Les voyageurs, quand ils passent avec leur véhicule, ils peuvent jeter des mégots de cigarettes. Et tout est parti de là et c'est parti. Mais les populations locales sont impliquées, ils sont sensibilisés. Nous avons tenu, et nous continuons à tenir, des réunions de sensibilisation. Et je crois qu'ils vont s'impliquer à protéger ces plantations-là.
Quel message lancez-vous directement à cette population-là bénéficiaire de ce projet?
Bon, mais le message, c'est un message de routine aujourd'hui, je vous dirai, puisque je le lance tout le temps.
Okay.
J'ai parlé plusieurs fois à travers toutes les radios locales qu'il y a eu chez moi, à Kenge. J'ai continué à lancer. Il y a des messages de sensibilisation qui sont permanents.
Quel est ce message?
Le message, ils doivent protéger ces plantations-là, puisque c'est pour notre bénéfice, au-delà de tout. Non seulement pour l'oxygène, mais au moins, il y a des produits dérivés que nous allons tirer de ces forêts.
Qui seront implantés.
Je parlerai du volet social. Le volet social, il y a eu des cahiers de charges qui ont été signés, il y a eu des protocoles d'accord. Colruyt a accepté d'améliorer certaines infrastructures. Dans les villages où le projet est implanté, ils ont déjà reçu certaines choses qu'ils ont demandées. Ils ont déjà reçu, c'est chez eux même maintenant en ce moment, tel que nous parlons. Toutes les essences qui seront plantées, ils ont une valeur économique. Ils ont une valeur économique, d'abord le biotope sera amélioré, puisque l'environnement sera amélioré. Et ce sont des essences, il y a des essences même qui sont des essences que nous retrouvons dans nos forêts, où on retrouve des chenilles. Ben, on en aura. Ça, c'est... Et puis, si c'est sécurisé, ces forêts, Mais les animaux sauvages qui ont disparu, ils vont revenir. Ils seront là. Et dans la philosophie du projet, on va même développer l'apiculture. On aura le miel et tout ça. Il y a un tas de formations qui est prévu pour accompagner les populations locales, pour tirer bénéfice de ces forêts.
L'importance du reboisement dans la lutte contre le changement climatique n'est plus à démontrer. De plus en plus, les arbres sont coupés dans les centres urbains et même dans les milieux ruraux de la RDC. Et pourtant, l'arbre joue un rôle non négligeable dans l'écosystème. Nous ne pouvons gagner la lutte contre les changements climatiques en travaillant en synergie, ajoute Jeff Theis. Nous rappelons qu'il est le directeur général des Colruyt Group.
Le réchauffement climatique est un fait et nous n'avons qu'une planète. Nous ne pouvons gagner la lutte contre le réchauffement climatique que si nous y travaillons tous ensemble. Nous devons tous nous préoccuper du destin de notre planète et de l'avenir de nos enfants. Une telle lutte nécessite des actions concrètes de la part de chacun, entre autres du secteur privé, car le dérèglement climatique est un fléau non seulement écologique, mais aussi économique et social. Et nous avons tous une responsabilité. Colruyt Group a aussi sa part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle je suis ici devant vous, aujourd'hui au nom de Colruyt Group, le premier groupe de distribution belge. Pour vous, chers amis congolais, ce nom ne dit peut-être pas grand-chose. Par contre, des marques alimentaires telles que Everyday ou encore Bonnie Selection devraient vous interpeller. En pénétrant dans ces lieux, vous aurez peut-être eu l'occasion de lire la phrase illustrant la mission de Colruyt Group. Créer ensemble une valeur ajoutée durable, fondée sur nos valeurs et notre savoir-faire dans la distribution. Les mots « créer ensemble une valeur ajoutée durable » résument à eux seuls la raison pour laquelle nous vous avons conviés ce soir. Nous avons toujours cherché à réduire notre incidence sur le climat. Conformément à nos principes fondamentaux, nous avons à cœur d'éviter les émissions de gaz à effet de serre et de rechercher de manière cohérente des solutions pour alléger au maximum notre empreinte climatique. Certes, nous travaillons ardemment à la réduction de nos émissions de CO2 par la production et le recours aux énergies renouvelables, par des moyens de transport ou encore des systèmes de refroidissement plus respectueux de l'environnement. Mais de part de la nature de notre métier, il reste des émissions carbone qu'il ne nous est pas possible de réduire dans un délai raisonnable. Ces émissions, nous avons choisi de les compenser. L'achat de certificats carbone est une alternative, mais elle ne nous satisfait pas. Nous nous sommes fixés comme objectif d'absorber 120 000 tonnes de CO2 à travers un plan de reforestation. Il est important de noter que le projet en soi n'ambitionne pas de réaliser des crédits carbone. Ce n'est pas l'objectif du projet. Nous voulions absorber activement ces émissions et nous assurer d'une valeur ajoutée, non seulement pour la planète, mais aussi pour la société.
C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré au projet de reboisement lancé par Colruyt Group, une chaîne de supermarchés de droit belge dans la province du Kwango, dans une présentation de Tati Mapoukou. Jean-Marc Maton qui a supervisé et coordonné ce magazine et Dieudonné Nyangasa était à la prise des sons. Retrouvons-nous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Code du Développement. En attendant, portez-vous bien et merci de rester branché à Radio Capi, la fréquence de la paix.